Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran, en ce jeudi soir, 26 novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les forces populaires iraniennes, le Basij, sont prêtes à défendre les valeurs de la révolution et renforcer la résistance nationale des Iraniens face aux ennemis, a fait savoir le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique. Un pétrolier grec a été touché mercredi par une explosion qui a eu lieu dans les limites du port Jurkaïk en Arabie saoudite. Et la population du Tigré continue de fuir en masse vers le Soudan, alors que le gouvernement éthiopien s'apprête à lancer l'assaut final sur la capitale Mekelle, tenue par le Front de libération du peuple du Tigré. C'était le titre. En voici le journal. Les forces populaires iraniennes, le Basij, sont prêtes à défendre les valeurs de la révolution et renforcer la résistance nationale des Iraniens face aux ennemis, a fait savoir le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami. L'ennemi est déçu par les échecs successifs de ses projets d'intervention militaire contre l'Iran, a déclaré le mercredi 25 novembre le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. L'option militaire a été exclue des projets anti-iraniens de nos ennemis et ils visent maintenant tant les croyances religieuses de nos compatriotes dans une guerre culturelle que la subsistance des gens dans le cadre d'une véritable guerre économique, a indiqué le général Hossein Salami. Le Basij est prêt à défendre les valeurs de la révolution et renforcer la résistance nationale des Iraniens face aux ennemis, a-t-il ajouté. Dans une autre partie de son discours, le général de division Hossein Salami a évoqué les activités du Basij dans ce contexte de crise de la pandémie de COVID-19. Le Basij est un corps militaire puissant et décisif, mais il est montré aujourd'hui sur le devant de la scène pour se battre contre les retombées économiques de l'épidémie de coronavirus, pour alléger les difficultés de subsistance des couches sociales particulièrement touchées par la pandémie, a-t-il déclaré. Le Basij est une force particulièrement efficace que nous utilisons en tout temps pour résoudre les problèmes de la société, a indiqué le général Salami en évoquant l'histoire du Basij et son rôle de premier plan à l'époque de la guerre imposée par le régime de Saddam Hussein à l'Iran. Après la période de la défense sacrée, le Basij a participé aux opérations de secours pendant tous les fléaux naturels et pour agir contre les pressions de toutes sortes de nos ennemis extérieurs, a déclaré le commandant en chef du CGRI. Le ministre irakien des Affaires étrangères et son homologue russe se sont rencontrés mercredi à Moscou pour s'entretenir des relations bilatérales et des dernières évolutions dans la région. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hossein, a transmis les salutations du premier ministre Mustafa al-Kazemi au président russe Vladimir Poutine. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé que son pays attend avec impatience la visite du premier ministre Mustafa al-Kazemi à Moscou. Fouad Hossein a également discuté avec son homologue russe de la situation syrienne. Lavrov a remercié la position de Bagdad en ce qui concernait la crise des réfugiés syriens. « Nous sommes prêts à équiper les forces armées irakiennes et fournir des armes et du matériel militaire à Bagdad », a souligné le chef de la diplomatie russe. Un pétrolier grec a été touché par une explosion qui a eu lieu dans les limites du port Choukaïkre en Arabie saoudite. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, le navire commercial a subi des dommages suite à l'explosion. L'explosion, survenue le mercredi 25 novembre, a frappé le MT Aigrari, un navire sous pavillon maltais et géré par la Grèce au large de Choukaïkre, en Arabie saoudite, juste au nord de la frontière yéménite. La coque du navire a été endommagée. Turk al-Maliki, porte-parole de la coalition d'agression saoudienne, a accusé Ansar Allah d'avoir mené cet acte terroriste avec le soutien iranien. Ces actes menacent la navigation et le commerce mondiaux, a-t-il prétendu. Enlisé dans sa guerre d'agression contre le Yémen, le régime saoudien avance des allégations sans fondement contre l'Iran pour camoufler ses échecs successifs face à la vaillante résistance du peuple yéménite. La Société britannique de sécurité maritime, Ambrey, a déclaré que l'Aigrari, géré par TMS Tankers, avait été endommagé par une mine alors qu'il était amarré à la centrale à vapeur de Choukaïkre, SSPP. L'explosion a eu lieu dans les limites du port et a perforé la coque du navire qui est dans le ballast, a déclaré Ambrey dans un communiqué, ajoutant que le navire était arrivé à Choukaïkre lundi. La mer Rouge est une voie de navigation vitale pour le fret et l'approvisionnement énergétique du monde. L'explosion survient au milieu des tensions croissantes entre l'Arabie saoudite et Ansar Allah du Yémen, qui a récemment intensifié les attaques transfrontalières contre la monarchie saoudienne en riposte aux agressions continues de cette dernière visant la nation yéménite. Les troupes turques ont perdu ces dernières semaines au moins 15 chars en Syrie. Qualifiés d'invincibles par Ankara, des chars de l'armée turque de type M60T ont été détruits par l'armée syrienne dans le village de Khan Safra, situé dans la région de Jabal al-Zawiya à Idlib, dans le nord-ouest du pays. Équipés de canons anti-chars et d'ATGM de fabrication russe, l'armée syrienne a anéanti les chars turcs en quelques minutes. Pour mémoire, Ankara a également perdu des dizaines de drones, de véhicules blindés et plusieurs autres équipements militaires en Syrie. Par ailleurs, un pont situé sur l'autoroute M4 a été dynamité au moment où une patrouille des troupes turques voulait le traverser. Tôt le 25 novembre, mercredi, des hommes armés à l'identité inconnue ont fait exploser le pont Al-Nail sur l'autoroute M4 qui relie le port de Latakié à la ville d'Alep, le centre industriel de la Syrie. Le pont est situé près de la ville de Mouambel, dans le sud-ouest d'Idlib. Selon certaines sources d'information, des hommes armés à l'identité inconnue ont fait sauter le pont pour bloquer l'autoroute M4, où la police militaire russe et les forces turques avaient effectué une patrouille conjointe plus tôt cette année. Les hommes armés à l'identité inconnue ont détruit le pont alors que les troupes turques étaient déployées le long du M4. Les troupes se préparaient probablement à une nouvelle patrouille sur l'autoroute. Le Sénat français a demandé au gouvernement, dans un texte voté mercredi, la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Le projet de résolution, qui n'a pas de valeur contraignante, a été voté par 305 voix pour, une seule contre et 30 abstentions au Sénat français, dominé par l'opposition de droite. L'Azerbaïdjan et l'Arménie s'accusent mutuellement de crimes de guerre durant les 6 semaines de combats meurtriers qui les ont opposés de fin septembre à début novembre. La décision du Sénat français a plu certes à l'Arménie et son président Nicole Pachinian qui l'a remercié via Facebook en adressant sa profonde gratitude à la France et au peuple français pour cette résolution. Pour sa part, le conseiller du président azerbaïdjanais, Hikmet Ajiev, a condamné la résolution, déclarant à Sputnik que Bakou l'a considéré comme un morceau de papier et un pas très honteux de la part de la France. Le conflit du Haut-Karabakh a éclaté en février 1988 et a duré jusqu'en 1992. Après une reprise des combats le 27 septembre 2020, une déclaration sur la cessation complète des hostilités dans le Haut-Karabakh a été signée le 9 novembre. Le document prévoit le passage de plusieurs régions de la République autoproclamée sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, l'échange de prisonniers entre Erevan et Bakou, ainsi que le déploiement d'un contingent russe de maintien de la paix le long de la ligne de contact et dans le couloir de la Chine, reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie. Ouvrons maintenant la page de l'actualité africaine. La population du Tigré continue de fuir en masse vers le Soudan alors que le gouvernement éthiopien s'apprête à lancer l'assaut final sur la capitale Mekele, tenue par le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Au Soudan, les familles éthiopiennes sont prises, tant bien que mal, en charge par les organisations humanitaires internationales. Mamoun Abou Aroub, coordinateur d'urgence du HCR, avoue à demi-mot être dépassé par cet afflux de personnes en situation de détresse. L'exil de la population pourrait encore s'accélérer dans les prochaines heures avec la fin de l'ultimatum ce mercredi. Le chef du gouvernement éthiopien, Abiy Ahmed, a d'ores et déjà rejeté toute tentative de médiation dans le conflit face au TPLF. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Missile Rhodes II, fin du bouclier royal. Le 22 novembre, presque au moment où le Saoudien Ben Salman évoquait en compagnie du sioniste Netanyahou comment faire pour transformer la cité futuriste Neom en un lieu exclusif de génération d'argent pour Israël, et tout ceci sous l'escorte des batteries de patriotes, un missile de croisière Rhodes II frappé à quelques 200 km plus au sud, un réservoir de distribution du pétrole de la raffinerie de Jeddah Aramco. Depuis septembre 2019, date de l'attaque au drone simultané contre cet autre site du pétrolier Aramco à Boukaïk et Khurais, les stratèges n'avaient pas cessé de rassurer l'axe Tel Aviv-Riyad qu'un Sarala ne pourrait plus refaire le coup. Ces derniers mois, les médias saoudiens et bien sûr les réseaux occidentaux et arabes ne cessaient de rapporter l'interception à vrac des drones aussi, surtout dans les provinces du sud où on sait l'armée saoudienne se fait appuyer par les conseillers US, britanniques, français et israéliens. Ces mêmes médias sont même allés jusqu'à prétendre que l'ère des attaques des forces yéménites sur le territoire saoudien est bien révolue, car un bouclier défensif moderne est installé dans le sud saoudien, bouclier capable de repousser toute opération d'un Sarala. Des vidéos n'arrêtaient pas d'ailleurs de refaire surface sur la toile, mettant en scène F-15SA et Eurofighter Typhoon, les mêmes auxquels l'ADESA yéménite a déjà fait la peau en pleine opération d'interception des drones kamikazes yéménites de type RASEF ou SAMAD, et ce à l'aide des missiles RR. Évidemment, personne ne se souciait de leur authenticité puisque la civilisation visuelle occidentale ne demande pas de preuves. Personne non plus ne se demandait est-ce un vrai succès que de voir des missiles de plusieurs millions de dollars tels que l'IM-120 Amaram du chasseur F-15 ou ceux de l'Iris-T de leur fighter être tirés pour détruire des drones qui n'en coûtent que quelques milliers. Et puis, on ne parlait presque pas du fait que depuis la fameuse attaque au drone simultané dans Sarala, les avions d'alerte et de contrôle aéroportés AVAX de l'armée de l'air saoudienne, pilotés par Israéliens et autres, effectuent des patrouilles aériennes continues au-dessus de la frontière sud du pays, façon de prévoir toute attaque. Une surveillance de 24 heures sur 24 à l'aide du F-15 et de leur Fighter Typhoon dans une ambiance balistique dominée par des missiles RR. Or, toute cette affabulation de DCA renouvelée s'est effondrée le 22 novembre quand un seul Qods 2 s'est abattu sur Jeddah, juste là où il avait la mission de frapper. Il y a encore pas si longtemps, les forces yéménites utilisaient un large éventail d'armes tels que des missiles balistiques et des missiles de croisière, des drones kamikazes ou des roquettes pour frapper des sites militaires et économiques en Arabie Saoudite à une distance de 100 à 1200 km de leur position. Tous les équipements de DCA de l'Arabie Saoudite, censés défendre à eux seuls l'espace aérien d'une ville de taille moyenne, n'ont même pas été capables d'intercepter un seul missile de croisière yéménite qui a facilement percuté le réservoir de carburant du port de Jeddah de façon si précise que même son dispositif de mousse a été bloqué. Les images publiées sur l'installation saoudienne montrent qu'Asarallah n'avait pas l'intention d'infliger des dégâts dévastateurs à ce gisement pétrolier. Sinon, il aurait tiré sans difficulté un plus grand nombre de missiles pour viser tous les réservoirs. Et puis Qods 2 n'avait pas une ogive lourde pour empêcher de mettre en danger la vie des civils résidents à proximité de l'installation. Asarallah aurait pu, mais il n'a pas voulu puisque la vie des gens lui importe. Mais est-ce suffit pour que Riyad revienne à la raison? Asarallah vient de promettre de nouvelles surprises.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir en fait sur ce qui se passe actuellement entre la résistance yéménite et le régime et saoudien. La résistance yéménite qui a en fait frappé, c'était lundi, une autre fois, les installations pétrolières saoudiennes d'Aramco à Jeddah, en fait, une frappe qui était d'une importance primordiale. Et cette attaque contre des installations pétrolières saoudiennes Aramco est intervenue à un moment où le porte-parole des forces armées yéménites avait en fait lancé une sévère mise en garde au régime de saoudien, en fait, de l'appelant à cesser ses agressions contre le peuple yéménite, ses agressions contre les installations vitale du Yémen, en fait, mais ces appels lancés du côté de la résistance yéménite sont en fait restés si vous voulez, indifférents du côté du régime agresseur. C'est pourquoi cette nouvelle attaque plutôt contre l'installation pétrolière d'Aramco. Et dans ce contexte, les Israéliens également sont inquiets. On va y revenir dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Mais j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission depuis Paris, M. Habib Tawa, analyste politique et spécialiste des questions internationales. M. Tawa, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, notre contact avec Paris n'a pas été encore établi. Mes amis à la régie sont en train de rétablir ce contact. En attendant, on va en fait partir tout de suite, en fait pour Paris, pour rejoindre l'analyste franco-syrienne, Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de l'invitation. Bonjour à l'ensemble de l'équipe et à tous les auditeurs.
Merci infiniment, madame, d'avoir accepté notre invitation. Première question, madame Midani. Je viens de lancer le sujet. Il y a eu en fait cette nouvelle frappe du côté de la résistance yéménite contre le régime agresseur en profondeur, une autre fois, si vous voulez, du territoire saoudien et plus précisément contre l'importante installation pétrolière d'Aramco. Quelle analyse portez-vous sur cette frappe du côté du Yémen contre l'Arabie Saoudite, s'il vous plaît?
Alors, c'est une attaque qui a beaucoup de profondeur, aussi bien sur le plan de l'action militaire que sur le plan de l'action symbolique et politique. D'abord, le missile par lequel cette attaque a été faite contre cette base qui s'appelle Nyum, en fait, des installations pétrolières d'Aramco à Jeddah. Il s'appelle Al-Quds 2, donc c'est Jérusalem. Et puis c'est très symbolique, juste au moment où le prince Mohammed bin Salman recevait Netanyahou et Pompeo et le responsable du Mossad, Yossi Cohen. Donc c'est aussi un autre sens, une autre dimension très importante de protestation à la fois contre ces alliances qui s'opèrent en ce moment avec Israël contre le peuple palestinien, un soutien indéfectible au peuple palestinien et surtout un soutien au fait que Jérusalem est restera arabe. En fait, en même temps, le responsable yéménite déclare que ce missile était prévu pour aller frapper Eilat et aller frapper le cœur d'Israël. Et malheureusement, les événements d'aujourd'hui font qu'il tombe et ils l'ont envoyé sur l'État ou sur le régime saoudien qui non seulement agresse le Yémen depuis 2015. En faisant des bombardements systématiques contre l'ensemble des structures et contre le peuple déjà, contre les civils, contre l'ensemble des structures humaines et humanitaires, je peux dire, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les salles de noces, les salles des condoléances, l'ensemble. Donc c'est visant la population civile systématiquement visant aussi à faire un maximum de nombre de morts. Aussi, en plus de l'embargo en fait ou de l'encerclement systématique aussi des ports et des aéroports yéménites. Au jour d'aujourd'hui, donc après 5 ans et demi de cette agression horrible qui est menée par les Saoudiens, les Émiratis et ce qu'on appelle l'association ou le les alliés des Saoudiens, il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces pays qui agressent le Yémen sont des alliés d'Israël et en fait, ils menaient cette agression du Yémen pour le compte d'Israël, pour différentes choses. D'abord parce que le Yémen a toujours résolument et indéfectiblement soutenu la lutte du peuple palestinien, d'une part, et puis d'autre part, parce que aussi c'est un peuple qui veut vivre debout et qui refuse toutes les tutelles, notamment les tutelles saoudiennes, Et troisièmement aussi parce que le Yémen se trouve sur une position géostratégique importante qui est la position à l'angle de la mer Rouge et de la mer indienne, donc aux portes de l'Afrique d'un côté et aux portes de la mer Rouge de l'autre côté. Et aussi, donc, et puis les Israéliens, en fait, tout ça pour le profit des Israéliens qui veulent dominer les voies de passage, les voies maritimes de passage à la fois du pétrole et de toutes les denrées.
Madame,
c'est important.
Pardon. Madame Mehmedani, excusez-moi de vous couper la parole. Vous l'avez en fait dit depuis 2015, cette coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite mène en fait cette guerre sans merci contre le peuple yéménite, contre les installations vitales de ce pays. C'est... Mais l'ironie de l'histoire, Madame Mehmedani, le régime saoudien qui avait promis de conquérir Sanaa dans deux semaines, lorsqu'il y a eu cette agression contre le Yémen en 2015, a écrit, suite à cette récente frappe de la résistance yéménite contre Aramco, une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU l'appelant à mettre un terme aux frappes, si vous voulez, saoudiennes contre ces installations pétrolières, Madame Mehmedani.
Effectivement, c'est l'ironie du sort. C'est eux qui sont les agresseurs. Et il crie aux agresseurs, à l'agressé. Il est clair que aussi depuis, il est important quand même de signaler que depuis 5 ans et demi, ni les structures de l'ONU ni le Conseil de sécurité n'ont évoqué dans le moindre rapport toutes ces exactions qui sont menées par la coalition dirigée par les États-Unis et par les États-Unis aussi en fait par l'Arabie saoudite, je dirais, pour le compte des États-Unis et Israël. Ils n'ont jamais fait la moindre remarque aux Saoudiens d'un côté. De l'autre côté, je tiens quand même à rappeler que lorsque l'Arabie saoudite était listée sur la liste noire pour avoir tué un nombre important d'enfants au Yémen, elle a été enlevée de cette liste noire par le secrétaire des Nations Unies, étant donné que l'Arabie saoudite a joué au chantage à l'argent d'un côté et puis aussi sans doute sous la pression des Américains. Je voudrais dire quand même que malheureusement l'ONU était devenue de plus en plus le défenseur ou la plateforme de défense des positions américaines dans la région. C'était le cas pour la guerre d'agression menée contre la Syrie aussi depuis 2011 et dans laquelle d'ailleurs l'Arabie saoudite a joué un rôle absolument important dans l'agression, puisqu'elle soutient toujours les terroristes. C'était aussi une plateforme d'agression, de financement du terrorisme et de soutien par les moyens militaires, par des munitions, par des armements, etc., de l'ensemble des organisations, d'un ensemble d'organisations terroristes en Syrie. D'ailleurs, ça a été aussi divulgué dans les médias lorsqu'il y a eu la divergence, je dirais, entre Qatar et l'Arabie saoudite. Ça a été dit sur tous les médias et crié sur tous les médias par Hamad Ben Jassim, qui était le ministre des Affaires étrangères du Qatar, et puis qui a vraiment divulgué et parlé de toute cette... ce complot contre la Syrie, et dans lequel étaient associés d'ailleurs, et ils sont toujours, et ils étaient associés Qatar et l'Arabie saoudite, et maintenant, bon, il y a des différends entre eux, Qatar continue à collaborer et à coopérer avec la Turquie. Tout ceci pour le plaisir des États-Unis et d'Israël, pour le plaisir et pour la protection de cette entité d'agression et d'occupation israélienne que tous s'évertuent à protéger et à faire durer, alors qu'elle est naturellement, je dirais, en voie de disparition, parce que jamais elle ne pourra être intégrée dans la région.
Madame Midani, s'agissant du régime israélien, je viens de le dire tout à l'heure, en fait, cette nouvelle attaque de la résistance yéménite contre Aramco semble inquiéter des Israéliens, au moins les milieux médiatiques des Israéliens. Et de ces milieux se sont arrêtés, Madame Midani, surtout sur les déclarations du membre du bureau politique d'Ansar Allah, Abdul Wahab al-Mahbashi, qui avait en fait précisé, après le tir, si vous voulez, de ce missile Qods 2, que voilà, ce missile est conçu. Là, je cite, si vous voulez, ce responsable du bureau politique d'Ansar Allah, avait dit que voilà, de ce missile est conçu pour frapper Eilat, Madame Midani. Exactement. Eilat, c'est le port israélien sur, en fait, la mer Rouge, un port qui est d'une importance, en fait, primordiale, qui avait été construit en 1995, Madame Midani. En fait, les Israéliens aussi ont pris, semble-t-il, très au sérieux ces déclarations de ce responsable du mouvement d'Ansar Allah, Madame Midani.
Tout à fait, en fait, bien sûr, parce qu'il a ajouté aussi que il était prévu pour aller à Eilat et plus loin même dans la profondeur de la Palestine occupée. Effectivement, ils ont pris ça tout à fait au sérieux d'un côté. De l'autre côté, je voudrais quand même rappeler qu'ils prennent toujours au sérieux les déclarations du Front de la Résistance sur les frontières nord de la Palestine occupée avec le Liban. Et ils tiennent aussi depuis un certain nombre de mois et de temps sur un pied et demi, comme on disait, sur une face à Nasrallah et en attendant toujours la réponse de Hezbollah. Du côté de la Syrie aussi, ils ont toujours beaucoup de peur de la Syrie, d'où leur participation quand même, et leur soutien aussi à Jabhat al-Nusra et à tous les terroristes qui sont en Syrie. Je voudrais quand même signaler que dans la semaine qui vient de se passer, il y a eu deux agressions contre Damas, des agressions israéliennes, à partir du Golan occupé et contre Damas, l'aéroport et la montagne Al-Mani' dans le sud de Damas. Là aussi, en fait, tout ceci montre non seulement les inquiétudes, mais vraiment la peur de cet état fantoche israélien. Je voudrais aussi quand même rappeler aussi que Netanyahou, quand il est allé en Arabie Saoudite, là, à Jeddah, à Neyoum exactement, la ville de Neyoum, à côté de Jeddah, c'était normalement un accord secret, une rencontre secrète, mais qui a été divulguée par Israel Hayom, qui est une revue israélienne, en fait, qui appartient justement à Netanyahou. L'objectif, c'était aussi pour montrer que l'Arabie saoudite, qui a été à la tête et qui a œuvré pour que Bahreïn et les Émirats arabes unis puissent faire face à ces accords avec l'État d'occupation israélien, que c'était l'Arabie saoudite, sous la pression de l'Arabie saoudite, et qu'il y a eu déjà plusieurs rencontres avant cette rencontre avec Netanyahou, entre Mohamed Ben Salman et Netanyahou. C'est quand même très important de voir que et tous les deux, ils ont été... Netanyahou a été dénoncé par ses compères israéliens qui s'étonnaient qu'il n'ait même pas pris les précautions de les informer, mais donc que ça a été dans le secret total, et que le Mohamed Ben Salman était aussi là, sans, il avait même approuvé quand même, apparemment, d'après ce que dit le journal, la publication et le fait de divulguer cette rencontre. Et en fait, ceci pour montrer que, de toute façon, pour aller dans le sens de la, moi je dirais pas normalisation, mais dans le sens des alliances avec Israël, mais ce sont des alliances actives, aussi bien au niveau des renseignements qu'au niveau des échanges de, d'informations et au niveau de la présence, en fait. Je pense que dans le monde musulman, on est en droit de s'insurger contre cette utilisation, je dirais, du ciel et des lieux saints pour accueillir un pouvoir d'agression contre tous les musulmans et contre les peuples musulmans et chrétiens, d'ailleurs, de la région, puisque Jérusalem est une capitale sainte pour les deux religions, mais aussi il y a la Mecque et le pèlerinage, et il y a Al-Médina, qui sont vraiment des villes saintes importantes pour l'ensemble des musulmans.
Et Madame Midanid, malheureusement, notre contact avec M. de Tava n'a pas été établi. On va poursuivre avec vous et notre débat. C'est quand même un très, très bon débat, Madame Midanid, grâce à vous et grâce à vos analyses et commentaires. Madame Midanid, vous l'avez en fait dit, il y a eu cette rencontre secrète entre Benjamin Netanyahou, Ben Salman et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, si vous voulez, à un moment où il y a eu cette attaque de la résistance yéménite contre l'installation pétrolière, en fait, d'Aramco. Et j'étais en train de fouiller les articles de la presse avant de venir, en fait, présenter cette émission. Je suis tombé, Madame Midani, sur ce tweet d'Abdelbari Atvan, le rédacteur en chef de Rayal Yaoum. En s'adressant, si vous voulez, à certains régimes arabes, il avait dit que voilà, Israël ne peut pas, en fait, de se protéger. Comment sera-t-il vous protéger, Madame Midani?
Exactement, puisque Israël vit une peur quotidienne, effectivement, de l'ensemble de la résistance libanaise, déjà, et de Hezbollah, mais aussi, ils prétendent, en fait, ces pays prétendent que leur alliance avec Israël va les protéger de la prétendue agression iranienne. Alors, comment Israël va pouvoir les protéger si elle ne se protège pas, ça d'un côté, mais d'un autre côté, c'est aussi créer un ennemi fictif, en fait, puisqu'il se crée. Il n'arrête pas de dire que l'Iran va les agresser ou ils ont peur de l'agression de l'Iran, alors qu'ils sont en train de tendre la main à l'ennemi réel de tous les peuples arabes et de tous les peuples musulmans, en fait, qui est l'État sioniste. En fait, cet État qui d'ailleurs, même dans la... pendant la signature ou pendant leur visite aux Émirats Arabes Unis, en même temps, ils exhortent les États-Unis de ne jamais donner les vraies armes aux Émirats arabes unis, jamais de F-35, jamais de F-25, mais il faut qu'elle soit pour assurer la suprématie militaire d'Israël dans la région, et il faut qu'il y ait quand même un rapport de force qui penche plus du côté d'Israël.
Merci
Donc
beaucoup.
En fait, non seulement il passe des accords et des alliances avec ces États. En fait, moi, je voudrais dire qu'ils ne sont pas des États. Ce sont vraiment des gens qui sont mis au pouvoir par les Américains, par les Britanniques, qui sont complètement coupés de leur peuple, parce que le peuple bahreïni s'oppose réellement à ces alliances avec Israël, le peuple émirati aussi. Et des sondages montrent aussi qu'en Arabie saoudite, la plupart de la population, nombre important, à 90%, ils sont complètement opposés à ces alliances.
Merci beaucoup.
Ces normalisations, entre guillemets, des rapports avec Israël.
Madame Aïssa Arbidani, analyste franco-syrienne, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Les ambitions africaines de Daesh, quelles perspectives? Bien que toutes les branches de Daesh en Afrique ne représentent pas une menace majeure pour les pays africains, la présence croissante du groupe terroriste sur le continent est une tendance stratégique à prendre en compte sérieusement. Dans le programme d'aujourd'hui, nous vous parlerons des activités de Daesh en République démocratique du Congo et au Mozambique. Les débuts de Daesh en République démocratique du Congo. En RDC, Daesh a revendiqué en avril 2019 par son agence de propagande Amar, l'assaut qui a visé une caserne de l'armée congolaise dans un village aux confins du nord-est. Cela est considéré comme la première attaque de Daesh en Afrique centrale. Le groupe a établi des relations avec une organisation locale terroriste, les Forces démocratiques alliées, ADF. Active depuis 1996, les ADF se sont implantés dans la région du Nord Kivu, près des monts non loin de la frontière ougandaise. Elles ont officialisé leur allégeance à Daesh en octobre 2017, après avoir tué deux casques bleus de l'Organisation des Nations Unies. Les ADF auraient changé de nom, devenant Madina Al-Tawhid Val-Mouahedin, MTM, la ville du monothéisme et des monothéistes, et aurait adopté des systèmes similaires à ceux de Daesh. Cependant, les liens restent particulièrement ténus et rien ne prouve que Daesh réussit à renforcer le groupe en lui fournissant de l'argent et des militants. En outre, ADF ou MTM n'est que l'un des quelques 140 groupes armés actifs dans les provinces orientales du Kivu. Une implantation naissante au Mozambique. Au Mozambique, la présence croissante de Daesh se fait particulièrement sentir. Le Mozambique est un pays à majorité chrétienne, mais il compte une population musulmane importante qui représenterait environ 17% de la population, bien que certains affirment qu'elle en constituerait jusqu'à 40%. Cette minorité musulmane est concentré dans le nord du pays et c'est là que Daesh avance dans la province de Cabo Delgado. Cette zone a vu l'émergence d'un groupe terroriste connu sous le nom d'Ansar al-Sunna, partisan de la tradition. Les habitants l'appellent également Ansar al-Sharia. Il a été créé par des partisans du religieux radical kényan Abu Drogo Mohamed, qui se sont installés au Mozambique après sa mort en 2012. Le groupe est formé de membres qui sont pour la plupart des Mozambicains, mais il comprend également des combattants étrangers de Tanzanie et de Somalie. Jusqu'à récemment, le groupe ne s'était pas publiquement engagé à faire allégeance à Al-Qaïda ou à Daesh. Cependant, il était clair que l'organisation terroriste mondiale accordait de plus en plus d'attention à ses activités. Les médias pro-Daesh ont diffusé des images de combattants mozambicains en les appelant « soldats du califat au Mozambique » et déclarant qu'une déclaration d'allégeance était imminente. En juin 2019, Daesh a annoncé pour la première fois sa présence dans le pays, affirmant qu'il avait réussi à repousser une attaque de l'armée du Mozambique à Metubi, un village situé près de Mokimbao de Praia. Toutefois, les forces de sécurité du Mozambique ont démenti ces affirmations en les qualifiant de propagande. Certes, il s'agissait avant tout pour Daesh d'une opération de relations publiques, affirmant sa montée en puissance en Afrique. Néanmoins, la situation de Daesh au Mozambique est largement différente de celle en RDC. Si Daesh n'est probablement pas réussi non plus à y faire venir des combattants, de l'argent et des armes, le combat local y apparaît plus fort et mieux organisé que les ADF en République démocratique du Congo. Depuis 2017, la présence d'une insurrection locale de plus en plus nombreuse et efficace a représenté un problème important pour les autorités locales. La consolidation des liens entre celles-ci et Daesh et une coordination plus étroite de leurs programmes sont susceptibles de renforcer la présence de Daesh au Mozambique. Dans sa tentative d'exploiter les situations de conflit à travers le continent africain, il n'est pas surprenant non plus que l'organisation manifeste un intérêt croissant pour ce qui se passe au Soudan, où le groupe a déjà une présence beaucoup plus établie et des liens significatifs. Daesh a été clairement affaibli au cours des dernières années. Cela ne signifie pas pour autant l'imminence de sa fin. Sa relance opérationnelle dans le continent africain a montré sa capacité à exploiter les conflits locaux ainsi que les clivages ethniques, sociaux et géopolitiques du continent. Il est vrai que dans certains cas, les revendications de Daesh sont plus des effets de communication que la preuve d'une réelle présence territoriale et opérationnelle. Cependant, sa pénétration actuelle dans des pays et des territoires comme la Libye, le Sahel, la Somalie et le Mozambique est un rappel de ses capacités. L'objectif est clair. Daesh souhaite rester un acteur mondial et le continent africain offre de nombreuses opportunités pour poursuivre cette ambition. Daesh a montré qu'il comprenait les clivages à l'œuvre dans de nombreux pays africains, non seulement dans ceux où sa présence était historiquement forte et qu'il était prêt à les exploiter. Toutes ces branches en Afrique ne représentent pas une menace majeure pour les pays du continent et le monde. Mais sa présence croissante est une tendance stratégique à prendre en compte et le chaos au Soudan laissent à penser que le groupe pourrait bientôt exploiter ce conflit aussi. Pour certains pays comme la France, le groupe a représenté une menace majeure au cours des dernières années, comme en témoignent les attaques sur le territoire français. En Afrique, notamment au Maghreb et au Sahel, la France a choisi de soutenir des hommes forts militairement et diplomatiquement. Paris prétend qu'ils sont une barrière contre le radicalisme et le djihadisme. Et de même qu'au nord du Mali, en 2012 et 2013, la France est disposée à agir militairement pour empêcher les groupes terroristes de prendre le pouvoir. Cependant, cette stratégie peut être très coûteuse politiquement, militairement et financièrement. Cette stratégie de soutien aux autocrates pourrait certes aider à réduire les risques imminents, mais pas nécessairement de manière durable. Les groupes terroristes en Afrique ont montré un degré important de résilience. Une stratégie axée uniquement sur le confinement ne réduira guère la menace d'un point de vue stratégique. Bien que l'Afrique puisse encore être marginale dans les équilibres diplomatiques mondiaux, l'histoire du djihad nous rappelle que les dynamiques locales peuvent avoir un impact global. Al-Qaïda a entamé son processus de mondialisation complète en Afrique dans les années 1990 et cette tendance a conduit aux attentats du 11 septembre 2001. C'est une leçon qu'il ne faut pas oublier, à Paris, à Bruxelles et à Washington et dans le reste du monde.
Thank you.
aquí Tehran, la voz de la